On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Alerte aux déchets ménagers. Leur volume augmente dangereusement et les installations de traitement sont proches de la saturation. Selon l'ADEME, une dizaine de départements sont en situation de saturation. La quantité de déchets ménagers produits par les Français augmente d'environ 1% chaque année et dépasse aujourd'hui 1 kg par personne et par jour. Il est temps de réviser sa poubelle et de trouver des solutions pour produire moins de déchets ou mieux les valoriser.
Cécile Courreault, je suis réalisatrice de films documentaires indépendante. Ça doit faire à peu près 8 ans que je fais ça. Et j'ai fait 3 longs. Un documentaire de 52 minutes sur le problème des déchets ménagers en France. Un 45 minutes, c'était une commande de l'État sur des bâtiments en fait dans une cité qui allait être démolie, donc le relogement de ces personnes-là. Et le film actuel, qui est un 52 aussi, sur les conséquences d'un barrage sur une tribu de nomades.
Alors nous, on va s'intéresser aux déchets. Tu disais le problème des déchets ménagers. Quel est le problème ?
Il y en a trop. le problème, c'est qu'il y en a. Le problème, c'est qu'il y a des matières qu'on considère en fait comme obsolètes, comme méprisables. Il y a tout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le déchet, c'est l'aspect psychologique, c'est le fait que c'est un rebut et c'est l'envers de la médaille. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, comme on ne veut pas le voir, on en a honte. On le cache vite dans des sacs poubelles opaques, de préférence dans des containers, et on cherche à s'en débarrasser de la manière la plus rapide et la plus simple, parce qu'il faut savoir que la gestion des déchets ménagers. Moi, je parle des déchets ménagers. Le film ne parle pas des déchets nucléaires, ne parle pas des déchets industriels, ni des déchets produits par notre corps. C'est, c'est vraiment les déchets qu'on met nous dans notre poubelle. Et ces déchets aujourd'hui sont traités à 80% en incinération et en mise en décharge. Et seulement 20% sont valorisés, c'est-à-dire qu'il y en a 12% qui sont recyclés, ce qui est assez ridicule. Comparé à l'Allemagne, votre voisin, eux, ils sont à peu près à 50%. Donc nous, on a 12% de recyclage et 8% de compostage. Et pour moi, le compostage, c'est vraiment c'est par là qu'il faut commencer. C'est comme ça, je pense qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Parce qu'à peu près un quart de votre poubelle, c'est constitué de ces matières organiques qui ne sont pas des déchets. Enfin, encore une fois, la notion de déchet, elle est complètement relative. Moi, je pense que ça n'existe pas. C'est juste nous, l'homme, à un moment donné, on décide que cette matière n'est plus intéressante. Et donc, le compost, c'est une manière justement d'éviter ce circuit vicieux du déchet, de renvoyer à la terre ce qu'on lui a pris. Souvent, il y a quand même 80%, je crois, des sols mondiaux qui manquent d'humus. Donc, rendre ces matières à la terre, c'est une manière d'empêcher cet appauvrissement de continuer. Et à partir du moment où vous avez enlevé ces matières-là, qui sont à peu près, c'est 80-90% d'eau. Donc, il y a vraiment aucun intérêt à les mettre dans un incinérateur et à les brûler. Ça ne produira pas d'énergie. Au contraire, ça en consommera. À partir du moment où vous les enlevez de votre poubelle, c'est plus sale, il n'y a plus de jus, tout ça. Et du coup, les cartons, toutes les matières recyclées, elles sont pas tachées. Donc voilà, pour moi, il faut déjà commencer par la fraction fermentissible et puis ensuite voir pour une réutilisation. Il y a le concept des ressourceries, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis la première chose, mais là on n'a pas trop de marge de manœuvre, c'est vraiment au niveau des industriels, c'est qu'ils arrêtent de fabriquer des produits générateurs de déchets. Au moment de la conception du produit, en fait, si on voulait vraiment faire correctement les choses, il faudrait penser production propre. C'est-à-dire qu'au moment de la conception du produit, on s'interroge déjà sur qu'est-ce qu'on va faire de ce produit en bout de chaîne. Donc on va éviter de mélanger différentes sortes de plastiques, parce qu'à la fin, en tri, ça sera très très compliqué à réutiliser et revaloriser cette matière. Donc voilà, et je finis sur le problème des déchets. En fait, moi je dirais qu'il y a une bonne métaphore pour le problème des déchets en France, c'est que quand on a une baignoire qui déborde, si t'as une baignoire qui déborde, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le robinet d'abord. Bon, ouais, voilà. Donc nous, au lieu de fermer le robinet, en fait, on éponge à coups de serpillière. Et voilà, et c'est ça qu'on fait en fait. On éponge le problème des déchets à coup d'incinérateur, à coup de décharge, mais on oublie de fermer le robinet en amont.
On va s'intéresser à, donc à nos poubelles, hein, de quoi est composée la poubelle d'un foyer moyen. Les déchets ménagers, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ?
Globalement, 25 à 30% de la poubelle, au minimum 25%, c'est des matières organiques, donc les épluchures, tout ce qui est compostable. Après, on a à peu près 50% de la poubelle qui est recyclable, donc c'est du carton, c'est du papier, c'est des bouteilles plastiques. Et ensuite, on a à peu près 25% de là, ce qu'on va appeler vraiment les déchets résiduels. Donc ceux-là, on ne sait pas quoi en faire. Quand je dis résiduels, ça veut dire les déchets dont on ne sait pas quoi faire, qui, en effet, à l'heure actuelle, ne peuvent finir qu'en décharge ou en incinération. Donc c'est sur cette... Mais c'est 25%, alors que donc c'est complètement inversé à tendance, parce qu'aujourd'hui, on est à 20% de valorisation et 80% dont on ne sait pas quoi faire. Donc en fait, dans la poubelle... T'enlèves 25% des épluchures, t'enlèves 50%, ça repart pour le recyclage. Tu te retrouves avec une fraction sur laquelle là il faut agir au moment de la conception.
Les déchets sont un problème politique aujourd'hui ?
Oui, ça m'a énormément limité dans mon film. Le problème, c'est que y a des lobbies. Voilà, je veux pas trop m'avancer sur la question, mais en gros la gestion, le traitement des déchets rapporte énormément de sous aujourd'hui, et je dirais que les entreprises qui pour l'instant gèrent ces mannes financières n'ont pas franchement envie de se tourner vers d'autres directions. Mais enfin, c'est encore, je dirais que ça n'a pas fondamentalement changé, puisque 3 ans plus tard, enfin moi, le film que j'ai fait, il circule encore énormément parce qu'il y a un besoin d'information. Donc ça n'a pas changé, il y a que la tête du ministre de l'Environnement qui a changé. Mais ça bouge quand même un petit peu. Il y a des plans de compostage qui sont mis en place là à Paris. Ils font du compostage en bas d'immeuble. Il y a énormément de crédits qui ont été mis en place pour faire des jardins justement partagés. Donc encore une plateforme de compostage.
Donc le rôle d'une plateforme de compostage, c'est quoi ? C'est récupérer le déchet organique pour en faire du compost et pouvoir le valoriser, le redistribuer derrière ?
Voilà, c'est ça. Donc depuis le 1er juillet 2002, tout ce qui est recyclable doit être recyclé. Avant, les végétaux ont été mis en décharge, recouverts ou incinérés. Donc depuis le 1er juillet 2002, avec une plateforme de compostage, donc on récupère les végétaux, on les composte, et à la fin, on obtient un super engrais qu'on valorise essentiellement sur nos exploitations agricoles. Tous les collègues sont agriculteurs. Donc c'était la première nécessité, c'était quand on avait commencé la matière organique dans les sols. Chez nous, on n'est pas en monoculture de maïs, mais presque. On a un peu de blé, on a encore certaines autres cultures, mais quand même beaucoup de maïs. Et les terrains chez nous commencent à manquer un peu de matière organique. La première volonté, c'était de ramener un engrais naturel, de la matière organique sur nos sols.
Combien ça coûte ?
Pour
un particulier qui veut venir se servir.
Le compost, donc c'est toujours en litres. Nous, on travaille en litres. Donc, en fait, le mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres, est vendu en vrac à 28 euros. Donc, ce qui est après du plus gros pour la viticulture, ça, c'est des prix spécifiques d'après la quantité, livré ou pas. Mais pour le particulier, c'est 28 euros le mètre cube.
Il y a des projets de recyclerie qui se mettent en place un petit peu partout. Donc voilà, mais c'est sûr que quand on voit comment c'est géré les déchets aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous achetez un produit, il y a le point vert dessus et on croit souvent que ça veut dire que c'est recyclable. Non, ça veut dire qu'en fait le producteur de ce produit, le fabricant, a versé une part financée, donc une certaine somme à une association éco-emballage qui est censée normalement gérer le tri, la fin de vie de ces produits. Le problème, c'est que éco-emballage, en fait, c'est les producteurs des produits. Donc, ils se reversent de l'argent à eux-mêmes et ils n'assument pas du tout le coût du traitement des déchets. C'est le consommateur qui l'assume, le coût du traitement.
J'imagine que le meilleur des déchets, c'est le déchet qu'on ne produit pas, pour commencer.
Ouais, voilà, c'est sûr.
Donc, il faut commencer par là.
Voilà, ouais. C'est pour ça, ce que je dis, c'est qu'il faut déjà réfléchir, c'est l'achat responsable à notre niveau. Et au niveau de la conception du produit, c'est faire quelque chose qui ne va pas poser problème en fin de vie.
Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Nous, en tant que citoyens, si on est un petit peu sensible à ce sujet des déchets et qu'on a envie de les réduire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on sait qu'il y a déjà l'apport volontaire. On peut aller apporter notre papier, notre verre. Mais finalement, qu'on le fasse ou pas, on n'est pas pénalisé. Qu'on jette notre bouteille en verre dans la poubelle ou qu'on la jette dans une benne, en tant que consommateur, nous, il y a pas de différence. Si ce n'est que notre éco-conscience.
C'est déjà pas mal. Non, bah, c'est sûr qu'à ce niveau, pour l'instant, on n'est pas du tout encouragé financièrement. On va y venir. Pour l'instant, on est à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, en effet, quelle que soit la quantité de déchets qu'on produit, on payera de toute manière la même somme. C'est pour ça que les systèmes comme la pesée embarquée, là, en Alsace, c'est très intéressant parce que les gens ne payent que pour ce qu'ils trient, en fait.
La pesée embarquée, le volume du bac, la redevance incitative. Monsieur Blaison, pouvez-vous nous aider à y voir un peu plus clair dans les différents systèmes de collecte des déchets?
Tous ces systèmes-là, en fait, c'est des outils qui sont mis en place pour permettre aux collectivités de gérer la redevance incitative. Donc, on peut les brosser rapidement. Vous avez effectivement un système à la pesée embarquée. L'idée, c'est on pèse la production de déchets de l'usager et il paye au poids de cette production. Ensuite, vous avez une autre notion qui est celle du volume du bac. L'idée est sensiblement la même, sauf qu'on ne mesure pas systématiquement la production de déchets. On passe un contrat, en fait, l'usager passe un contrat avec la collectivité qui lui affecte un volume de bac en fonction de ses dispositions à plus ou moins bien trier. Un autre système, c'est un système de redevance incitative qui peut être mis en place, c'est au nombre de levées. Cette fois-ci, on ne joue plus sur le poids du déchet ou sur le volume présenté, mais c'est sur le nombre de fois où l'usager va présenter à la collecte son bac. Et enfin, un dernier système qui est en place, mais de façon relativement peu importante, c'est une redevance incitative au sac de collecte.
Et quelles sont les limites de ces différents types de systèmes ?
Après, dans ces systèmes-là, on en a évoqué quatre, il y a aussi des possibilités de mixage en fait entre les différents systèmes. Donc on peut très bien envisager de faire une redevance incitative volume plus levée ou pesée plus levée. En fait, on a encore les collectivités ont encore le choix. Dans ces différents systèmes, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Si on parle de la pesée embarquée, sur le papier et en théorie, ça reste le meilleur système. Effectivement, quoi de mieux que de facturer au kilo près la production de déchets des usagers. Sauf que ce système-là a comme les autres, mais des contraintes un petit peu spécifiques. La première contrainte, c'est quand même c'est un équipement électronique qui est relativement lourd, hein, puisque une BOM aujourd'hui, une benne d'ordures ménagères, coûte 200 000 euros. Et un équipement en pesée embarquée, ça représente entre 50 et 70 000 euros. Donc c'est déjà un alourdissement du service de collecte pour l'usager. Le second point, c'est que c'est quand même une pesée qu'on pourra qualifier au gramme près ou au kilo près, c'est-à-dire que la production de déchets par semaine va être de quelques kilos, quelques dizaines de kilos. Donc le niveau de précision nécessaire n'est pas toujours disponible. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les aléas climatiques ou même les aléas de pente au niveau des rues peuvent mettre à mal ce système-là. En gros, quand il fait trop chaud ou s'il fait trop froid, ou si la rue est passablement en pente, on n'est pas certain de la véracité des informations du système informatique. Et enfin, et dernier point, il y a aussi la capacité pour l'usager de peser lui-même sa production de déchets. C'est-à-dire que le camion va, au fur et à mesure de ses tournées, enregistrer une production, disons, de 200 kilos sur l'année. La collectivité va facturer 200 kilos de production de déchets à l'usager. En parallèle, l'usager de bonne foi va vouloir vérifier que les 200 kilos qui sont facturés sont effectivement représentatifs de sa production réelle. Il va prendre le pèse-personne à la maison et va arriver à 180 ou 190 kilos. Donc toute la problématique en fait de ce système-là est non seulement de faire une mesure, mais de valider cette mesure. Donc on rentre dans une démarche d'étalonnage de ces systèmes de mesure. Et encore une fois, si on veut le faire comme ça doit être fait entre guillemets, ça génère des coûts supplémentaires. Donc c'est pas en tout cas en ce qui nous concerne le système qu'on va privilégier. Vous avez un autre système, le système du volume, qui lui ne nécessite pas en fait de surcoûts supplémentaires, sauf si on veut encore une fois faire un adressage, c'est-à-dire pucer les bacs pour faire correspondre un bac à un usager. Et c'est très pratique notamment pour gérer la partie facturation. Ce système-là, on ne fait pas de mesure. Puisqu'encore une fois, le volume du bac a été défini a priori par l'usager, entre l'usager, j'allais dire, c'est un contrat entre l'usager et la collectivité. C'est ce qui se passe notamment sur la communauté de communes de Cernay et les résultats sont très très bons. Il n'y a pas d'incitation non plus, parce que ce que j'ai oublié pour la pesée embarquée, c'est qu'il y a aussi une incitation. Dès que les gens ont compris, alors pas tout le monde bien sûr, mais une partie de la population, quand elle aura compris que si elle peut éliminer les déchets de façon différente et éventuellement avoir des dérives comportementales, elle va d'autant diminuer sa facture. Donc le système à la pesée embarquée est aussi, à ce titre-là, quelque chose qu'on ne préconise pas. Le volume, c'est différent. Les gens ont un volume de bac devant chez eux. Il n'y a pas d'incitation a priori, jusqu'au, en tout cas, le volume du bac, à aller mettre les déchets ailleurs que dans la poubelle. C'est un système aussi relativement simple, et on sait que plus c'est simple et plus ça a des chances de marcher. Par contre, ça nécessite une implication forte de la collectivité, qui se doit de rencontrer tous les usagers et de discuter et de négocier avec eux le contrat. En gros, l'idée, pour une catégorie de famille ou d'usagers, de 3 personnes, la collectivité laisse le choix entre 3 volumes de bac. 100 litres si les gens sont effectivement dans la moyenne, 120 litres s'ils sont pas du tout conscients ou en tout cas motivés à trier, et puis 80 litres s'ils ont plutôt envie de faire un effort et devoir diminuer leur facture.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot, c'est vrai la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Il existe différents systèmes. La pesée embarquée, le volume du bac, quel autre système ?
Donc troisième système, on l'a dit, c'est la présentation du bac. Donc là, on a par contre besoin aussi d'un adressage et d'un puçage du bac. On va simplement comptabiliser le nombre de levées de bac par an. Avec, là aussi, il faut mettre des garde-fous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le minimum, ça sera zéro levée. Donc les collectivités qui sont parties dans cette direction-là ont mis en fait un nombre minimum de levées. Il ne faut pas que ce nombre non plus soit trop important pour laisser une place à l'incitation. C'est le système qui peut générer le maximum d'économies aux collectivités, puisque les collecteurs que nous sommes répercutent les coûts de collecte. Et entre lever un bac plein et un bac vide, c'est le même coût. En fait, l'idée qu'on développe, c'est que si on n'a que 35 ou 40% des bacs qui sont présentés à chaque collecte, on va pouvoir faire diminuer les coûts de collecte. En tout cas, l'avantage principal de ce système-là, c'est bien des économies de coûts pour la collectivité. Ensuite, on a des collectes au sac. Donc l'idée, c'est qu'on ne prend à la collecte que des sacs qui ont le logo de la communauté de communes ou de la collectivité qui a mis en place ce système. Donc c'est un système qui a fait ses preuves, hein, qui marche sur notamment la communauté de communes de Saint-Amarin avec une diminution des tonnages relativement, pour pas dire très importante. Attention néanmoins à deux points. Le premier, c'est celui que je citais tout à l'heure d'un point de vue réglementaire par rapport à la R437, puisque ça reste de la collecte d'ordures ménagères résiduelles en sac. Donc ces sujets, aujourd'hui ce n'est qu'une recommandation de la CRAM. Demain, la CRAM peut interdire ce type de collecte. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi un système qui peut générer des dérives. Parce que comme on comprend que les sacs de la collectivité seront collectés, on peut imaginer des systèmes où les sacs qui ne sont pas logotés peuvent avoir des destinations différentes, où on peut même se poser la question de comment gérer ces sacs s'ils sont mis sur le domaine public. On ne peut pas les laisser indéfiniment sur le domaine public, donc il faut aussi penser à ces problématiques-là. Il n'y a pas de système idéal, mais il y a, en fonction de la typologie d'habitat, en fonction de la réflexion et de, entre guillemets, de la motivation de la collectivité, certainement des systèmes plus adaptés que les autres.
Donc forcément là, ils vont être incités à trier. Bon, même en dehors de l'encouragement, donc c'est sûr qu'à mon avis, il y aura vraiment une évolution au niveau du comportement une fois que les gens s'y retrouveront financièrement. Mais c'est clair que si on peut faire le tri, enfin il faut le faire. Mais là, le déchet, il existe déjà. Enfin, il faut même, moi je trouve, prendre encore plus en amont, c'est-à-dire au moment d'acheter les choses, chercher des choses non emballées. Évidemment, pas prendre de sacs. Alors peut-être qu'ici il y en a plus, mais à Paris il y a encore plein de sacs plastiques. Se tourner vraiment vers le réutilisable. Aujourd'hui, on est dans une société du tout jetable. Enfin, on jette même les appareils photo. On a un appareil photo jetable. On jette tout. Ben ça, c'est du pétrole. Un appareil photo jetable, c'est en plastique. Donc aujourd'hui, on rouvre même certaines décharges pour récupérer des métaux parce qu'on les a plus. Donc voilà, c'est ça, c'est au moment d'acheter, au moment de consommer, en fait, réfléchir vraiment à créer le moins de déchets possible. Faire du compost, j'insiste là-dessus.
Alors le compost, c'est vrai que c'est finalement rendre la matière organique à la terre, hein, d'où elle vient. Mais quand on habite dans un immeuble collectif, comment est-ce qu'on peut faire pour composter ?
Alors si on est vraiment motivé, il y a le lombricompostage. Moi j'ai découvert ça en faisant les recherches pour ce film-là et j'ai essayé, c'est super. Et en fait là c'est du compost hors sol, donc dans un bac, et vous introduisez les lombrics, les vers de terre. C'est une race particulière de vers de terre, très gourmand. Et là, vous, en fait, artificiellement vous créez un milieu propice au compostage, et ça pourrit pas, ça devient vraiment de la terre. Au bout d'à peu près, c'est un peu plus lent que le compost normal, un an. Et puis sinon, bah, les autres solutions, c'est faire pression sur les élus pour que, comme en Allemagne, il y ait des collectes de déchets organiques. En Allemagne, ils collectent les déchets organiques chez les gens, et puis ensuite ils les mélangent dans les parcs avec les déchets verts, et ils font du compost, et il y a une distribution de compost. Ici en France, en Vendée, maintenant dans d'autres endroits aussi, parce que mes informations commencent à dater un peu, mais à l'époque, les initiateurs de ça, c'était en Vendée, et eux, ils avaient installé une plateforme de compostage collectif en plein centre, c'était une toute petite ville. Et les gens, bah, et c'était, ce qui était bien, c'est que c'était à côté des commerces, de l'école, et ils avaient distribué des seaux aux gens, et les gens, le matin, ils amenaient leurs seaux d'épluchure, et puis, trois fois par an, ils faisaient une distribution de compost, et t'avais un tampon à chaque fois que t'amenais tes déchets, et donc, au moment de la distribution, t'avais l'équivalent en compost.
Ce qui existe aussi en Alsace, hein. Aujourd'hui, tu as des communes où ils font ce tri-là, où tu as la poubelle, je crois que c'est jaune, qui correspond à tout ce qui est organique, et il y a un ramassage, hebdomadaire où on amène ça sur une plateforme de compostage et le particulier peut venir avec sa brouette, sa remorque récupérer le compost. Tu peux me parler un peu du lombricompostage, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer?
Moi, c'est ce qui m'a le plus passionné en fait. Le lombricompostage, bah, j'ai découvert ça, c'est une famille qui faisait ça, qui avait des enfants. Je cherchais une famille avec des enfants parce que pour moi, c'était vraiment important de montrer que c'est pas sale, voilà, et à Grenoble. Et puis, bah en fait, c'est vraiment tout simple. Hein. Il y a une petite entreprise Vers la Terre qui en fabrique des super. Mais sinon, le principe, tu fais une litière en fait avec des feuilles mortes, un petit peu de terre, tu mets tes lombriques dans un bac. Et puis tu donnes les déchets organiques, donc c'est un peu plus contraignant quand même que le compost dans le jardin, parce que le compost dans le jardin en fait t'as plusieurs phases, et c'est donc à un moment ça monte très haut en température et là c'est des bactéries qui travaillent, et c'est uniquement dans la troisième phase en fait du compostage où t'as les vers, les lombriques qui arrivent parce que ils peuvent pas supporter des températures trop hautes. Donc là, dans du lombricompostage, on court-circuite les deux premières phases et on va direct à la troisième. C'est les lombriques qui font tout le travail. Donc c'est pour ça que ça va plus longtemps et ça monte moins haut en température. Donc voilà, t'as tes feuilles mortes, un peu détrempées, tes lombriques, tu mets ta matière organique. Le rapport, c'est 70% azote, donc les épluchures, et 30% carbone. Donc le carbone, bah, c'est si tu travailles dans un bureau, tu mets du papier. Faire attention aux encres qui peuvent être toxiques pour les vers. Sinon, des feuilles mortes ou de la sciure. Et puis bah tu mets un petit peu de sciure à chaque fois que tu mets beaucoup d'épluchures et tu mets un couvercle de feuilles mortes au-dessus pour éviter les odeurs, les moucherons, tout ça. Et en dessous, en fait, ton bac dans lequel tout ça, il y a tout ça, en fait, le fond, il faut faire des petits trous parce que donc encore une fois, les épluchures, c'est 80 à 90% d'eau. Donc c'est ces fameux jus, on dit toujours c'est sale dans nos poubelles quand on sort pas la poubelle pendant une semaine. Bah en fait c'est de l'eau. Donc là ça retombe dans le bac du dessous et ça c'est un super engrais. Tu le mets, faut pas le mettre pur sur les plantes sinon elle brûle. Mais si tu le mélanges à de l'eau, ça te fait un engrais très azoté, très un booster en fait. Donc voilà, et t'as du compost, t'as de la terre à peu près, je dirais, au bout de 10-11 mois, et tu récupères du jus ça dépend quoi, toutes les 3 semaines. Et bah moi je trouve que ça fonctionne sans problème quoi. Il y a 2-3 mouchons, faut quand même le dire.
Mais on fait ça en intérieur ou sur son balcon?
Bah si on a un balcon abrité, c'est le top. Parce qu'il faut pas que la pluie tombe dedans, sinon ils vont être noyés. Donc moi, j'ai jamais eu de balcon. Quand j'étais en ville, je le faisais en intérieur et il y avait pas de souci.
Donc la solution la plus simple, ce serait quand même de faire pression sur les politiques pour instaurer un système de collecte du biodéchet.
Oui, complètement. Oui, parce que là, il faut être motivé. Les gens disent, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des vers de terre dans leur cuisine. Faut trouver les vers de terre. Voilà. Bon, c'est assez particulier. Là, je viens d'en installer un chez une copine à Paris, qui n'était pas du tout. Ça fait un an et demi que je lui en parle. Ça y est, elle est prête, mais elle veut pas les toucher. Voilà. Mais bon, une chose très très importante, c'est que là, ça fait peur quand j'en parle, mais en fait, les vers de terre ont peur de la lumière. Donc, ils restent toujours au fond, on les voit jamais, jamais. Et on soulève un peu les feuilles mortes pour mettre les déchets, et on voit pas les vers de terre. Si on est intéressé, moi, je voulais un peu les recenser, donc là, on gratte, quoi. Mais moi, je trouve ça super, parce que ça réintègre, en fait, le cycle, justement, ce fameux cycle qui est naturel à la base, qui il n'y a pas de déchets dans la nature, il n'y a pas de déchets en fait, c'est un cycle, la boucle se ferme, c'est nous qui sommes intervenus dans ce cycle et qui l'avons rompu. Donc le lombricompost en fait ça permet de refaire ça en ville, alors que la ville elle empêche le compostage en général. Parce que j'ai eu des gens à qui j'avais donné des lombricomposteurs et qui sont partis un mois et demi, qui n'ont pas nourri les vers et ils sont morts.
On inspire. On expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent par rond.
Pour plus d'informations sur les déchets ménagers et le lombricompostage, www.verslaterre.fr.
We'll be right back.